Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis maintenant en compagnie de Madeleine Pereira. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dessinatrice. Heureuse d'être là, visiblement. Vous
oui, venez... c'est la première fois.
Vous venez de publier aux éditions Sarbacane Burbuleta, Borboleta. Et alors, vous essayez, tout le long de cette bande dessinée, peut-être même tout le long de votre vie, je ne sais pas, on va le savoir, vous essayez de faire parler votre père. Vous aimeriez qu'il vous raconte son passé, ce qu'il a conduit en France, son histoire familiale, son enfance, et vous avez un peu de mal. D'autant que lui vous renvoie vers ses amis. Ce sont donc les vies de Guide, Nounou, Juan, Jaime et Juan, votre tante dans la BD que vous nous présentez, évidemment. Le fil conducteur étant votre personnage, une jeune femme qui va de récit en récit comme un papillon irait de plante en plante. Et nous, lecteurs et lectrices, avançons avec vous. Et à la fin de la BD, en savons autant que vous sur votre père, c'est-à-dire pas grand-chose. Vous expliquez au début de l'ouvrage que vous prétextiez le travail, la préparation d'une bande dessinée pour faire parler votre père. Est-ce que vous pensez vraiment que ça marcherait ?
Bah, la preuve est que ça n'a pas marché. Mais non, je sais pas. Je me suis dit, bah, ça peut être un bon prétexte pour, oui, effectivement, qu'il parle un peu plus, mais ça a pas trop marché. Et puis, même à la fin de la BD, pour ne pas spoiler, il y a quand même une ouverture. J'ai quand même voulu faire une fin un peu ouverte, mais ça, ouais, ça va changer grand chose, hein. Et mon père, il est actuellement dans la même pièce.
Absolument, je précise ici pour celles et ceux qui nous écoutent que votre père est en studio à côté de vous.
Exactement,
il est là,
il est en voiture.
Je ne le vois pas, mais c'est bon, je le vois, voilà.
Oui, donc si on entend tousser, c'est lui parce qu'il est un peu malade.
Très bien, on saura. Quelle relation entretenez-vous avec votre père? Bon, lui qui est arrivé en France en 1973.
Oui, c'est ça, donc il avait 13 ans. Et il a été dans des classes. Je crois qu'à l'époque, il y avait du coup, ils intégraient les classes au collège, et puis ensuite, il y avait une classe pour personnes qui parlaient pas français de temps en temps dans la semaine pour apprendre le français et tout machin. Et là, après, la relation que j'ai avec lui, bah, c'est marrant, on s'entend bien quand même, même si parce que on a passé 4 jours à Lisbonne la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, pour la promotion de la bande dessinée à la Tinta Nujner, qui est une librairie galerie à Lisbonne. Et après, sur le retour, en fait, on était coincés dans l'avion. Et du coup, on était tous les deux à côté. Lui, il arrêtait pas de tousser. Je lui disais, mais tous dans ton écharpe. Après, on se donnait des coups de coude pour s'embêter. Parce que du coup, comme on était coincés 2 heures à pas bouger, lui, il était sur son téléphone, il regardait le foot. Et moi, j'avais rien à faire. J'avais un livre, si, mais j'étais trop fatiguée pour lire. Du coup, je sais pas, on essayait de s'embêter.
Donc, une relation plutôt bon enfant qui contraste avec le fait de ne rien savoir de lui.
Oui. Et après, il y a aussi le truc où... j'ai compris que ça servait à rien de pousser, de forcer, mais peu importe pour qui. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est intéressant. Il y a une dame pendant, du coup, la promotion à Lisbonne qui m'a dit, enfin, c'était la dame de la librairie qui a dit que dans la BD, elle sentait que j'étais pas en mode intrusif, dans les vies des gens, et que je respectais, en fait, voilà, si quelqu'un veut pas parler plus, je comprends et c'est pas grave. Et après, il y a une autre dame aussi qui m'a dit un truc intéressant, je trouve, c'était qu'elle sentait que les Portugais qui, du coup, soit les Portugais qui étaient restés au Portugal, mais même ceux qui sont arrivés en France, ils portaient une charge émotive assez forte. Et je me dis, c'est peut-être ça que moi je sens, mais que j'arrive pas à expliquer. Et à un moment, je le dis dans la BD que quand je vois des vieux Portugais sur les bancs, par exemple, ça m'émeut, mais je sais pas pourquoi. Et du coup, j'étais genre, ah, c'est peut-être pour ça, en fait.
Et vous sentez ça chez votre père?
Oui, je pense. Bah, je sens qu'il y a certains sujets, c'est trop compliqué, du coup, autant ne pas aborder. Enfin, comme il esquive, je vais pas forcer. Je me dis, si la personne, elle esquive, c'est parce qu'il y a une blessure ou un truc comme ça, qui est trop important, et du coup, je respecte.
Il y a une forme d'honnêteté énorme, parce que vous dites ça.
Il est juste là. Je regarde pas, du coup. Il regarde la télé qui est là.
Au-delà du récit familial, chacune des histoires que vous racontez nous permet de comprendre aussi un peu mieux le Portugal, notamment le Portugal de la dictature. Les témoignages sont tout à fait représentatifs et significatifs. Avec Jaime, on comprend la dureté de l'éducation salazariste. Avec Nounou, la condition des Portugaises et Portugais qui fuyaient Salt, ou comme on dit, illégalement à travers les montagnes. Avec João, on perçoit le système clientéliste, de favoritisme, où certains, parce qu'ils avaient les contacts qu'il fallait, pouvaient échapper à la guerre coloniale. Avec Guide, on voit toute la crainte existante vis-à-vis de la PIDE, des collabos, dénonciateurs. Et avec Juan, enfin, vous dressez le portrait réel de la société salazariste, pardon, une société patriarcale, machiste et violente, où l'on sent bien la difficulté, encore plus qu'aujourd'hui, d'être une femme seule avec ses enfants. Alors, je sais bien qu'il y a de la fiction au sein de tous ces témoignages, même au sein de votre propre biographie, mais j'imagine que vous en avez appris beaucoup pendant la préparation de ce travail.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai commencé par, du coup, interviewer plusieurs personnes, mais que j'avais même pas rencontrées, hein, parce que c'était pendant le confinement. Et donc ça, c'était un peu étrange, parce qu'ils me racontaient quand même des bouts de leur vie assez personnels. Et puis moi, je savais pas qui c'était, en vrai, parce que du coup, c'était des potes de mon père. Et bah, sauf ma tante, hein, que je connais. Et après, et en fait, à chaque fois, je leur posais les mêmes questions. J'ai oublié la question que tu m'as posée. Mais bon.
Vous avez appris beaucoup, j'imagine.
Ah oui, voilà, c'est ça, oui, pardon. Du coup, je leur posais les mêmes questions à chacun. Et ils me répondaient, donc voilà. Et après, j'ai dû faire des recherches. Parce qu'en fait, donc, j'avais tous mes témoignages devant moi. Et je me suis dit, eh ben, je vais essayer de raconter une partie différente par personnage. Donc, il y a, la plupart, c'est quand même super vrai, hein. Après, j'ai rajouté des parts de fiction, justement, dans tout ce qui est historique et politique. Parce qu'à côté, j'ai dû faire un gros travail de recherche. Donc, j'étais pas mal sur RTP Archive pour voir les vidéos à l'époque et tout machin. Je suis allée au musée d'Oualjou, ben, ça, j'en parle dans la BD, où j'ai appris pas mal de choses. Et après, il y avait des lectures. Et, sauf que, après, je me suis dit, oh, ça fait beaucoup trop de matière. Comment je vais faire pour trier et pour raconter que certaines parties? Et c'est là où je me suis dit, et l'avantage d'avoir du coup la génération de mon père qui a émigré en France, du coup c'est que des enfants en fait, parce qu'ils avaient entre 10 et 18 ans, du coup ils avaient moins le regard politique je pense sur la question, parce qu'à l'époque ils étaient trop jeunes. Et du coup c'est pour ça que moi j'ai juste parlé de politique et d'histoire au sein de chaque témoignage, mais par différents biais, donc il y a des personnages qui interviennent, mais eux par exemple c'est de la fiction. Parce que dans le témoignage de James, à la fin, il y a une dame qui se dit qu'elle s'est fait torturer par la police politique. Et ça, par exemple, j'ai rajouté dans son témoignage pour justement apporter ce point de vue-là. Enfin, pour montrer qu'il y avait aussi ça au sein de la dictature. Donc j'ai appris plein de choses. J'en ai oublié plein aussi. Mais j'ai appris pas mal de choses. Et c'est important parce que je pense qu'il fallait ça pour moi, afin que je me sente plus portugaise quelque part. Et c'est ce que je dis aussi, c'est que en fait je connaissais rien à l'histoire du pays. Et en fait, quand il y a le premier témoignage qui arrive, donc de Guida, même dans donc dans la BD, je dis mais en fait elle me parle de la PIDE, mais moi je savais pas ce que c'était. Et du coup, le, je sais pas si t'as remarqué, mais genre c'est pas traduit en fait. C'est pas traduit, c'est pas expliqué, il y a pas l'astérix. Juste pour que le lecteur aussi qui il se mette aussi à ma place.
Pour titiller une curiosité aussi.
Ouais, et puis se dire mais je comprends pas. Et surtout, je pense que du coup quand tu lis, tu te dis mais je comprends pas, et y a, c'est pas expliqué, c'est bizarre. Et en fait, après, on comprend plus tard que c'est parce que même moi, je comprenais pas. Donc ouais, voilà. Donc ouais, j'ai appris plein de trucs.
Quand est-ce que tu as su, tutoyons-nous, effectivement, je pense qu'on a le même âge. Quand est-ce que tu as su que tu étais portugaise? Je pense à l'épisode du M de McDo dans ta bande dessinée.
Ça, c'est une blague, en vrai. Enfin, je veux dire, c'est une blague, c'est, ça m'est pas arrivé. Mais je sais plus où j'ai entendu ça, et je me suis dit, ah, mais ça marche trop bien comme, comme insulte. Je sais pas, mais du coup, je me rappelle qu'au collège... Bah après, nous, on a la nationalité portugaise aussi. Mais je me rappelle qu'au collège, bah c'est ce que je dis aussi, c'est que j'étais avec, donc à chaque fois il y avait des classes depuis ma primaire, je pense. J'ai des cours de portugais mais au sein des établissements, et au collège on était peut-être 10 et il y en avait, ils étaient ultra portugais, enfin comparé à moi où ils avaient les t-shirts Ronaldo, ben même dans la manière de s'habiller, ils avaient, tu sais, les sacoches à bandoulière avec le drapeau du Portugal, je sais pas, tout le côté portugais, ils parlaient portugais.
Tout le cliché en fait.
Ouais, peut-être c'est ça. Mais du coup, moi, à côté, je me sentais vraiment super française. Enfin, je me suis dit, mais... Et après, ça, j'ai compris, parce que j'en ai parlé avec une copine plus tard. Quand, pendant que je faisais la BD, je disais, mais je comprends pas et tout. Et elle me disait, mais t'es pas portugaise, en vrai, t'es juste d'origine portugaise. Et aussi, ce qui change, c'est la classe sociale. Où genre, mon père, il... bah, après, on comprend dans la BD, mais il est dans une classe sociale qui est plus élevée que celle de ma tante, par exemple. Et du coup, on n'a pas les mêmes codes. Et une fois, j'avais pris le train... Et il y a un groupe de Brésiliens qui est arrivé. Et j'étais à côté de deux contrôleurs, et les deux contrôleurs, ils commencent à parler des Brésiliens en disant, ouais, les Brésiliens, je sais pas quoi. Donc je leur ai dit, non, mais attendez, je suis brésilienne, parce que ma mère, elle est franco-brésilienne. Et après, ils me disent, mais regarde notre nom. Ils s'appelaient genre Miguel et José. Et nous, ils disent, nous, on est portugais quand on allait au Portugal. Et après, ils m'ont raconté plein de souvenirs qu'ils avaient d'enfance. Et je me suis dit, mais moi, j'ai pas du tout les mêmes. Parce que on faisait
pourquoi,
pas.
Pourquoi d'ailleurs?
Je sais pas. Genre les, je sais pas. Mais on n'a pas les mêmes souvenirs que.
Quel rapport au Portugal? Tu allais souvent au Portugal quand tu étais plus jeune?
Bah, je crois qu'on y allait tous les deux ans, parce que du coup, ma grand-mère, elle avait acheté une maison à Montijo, donc en face de Lisbonne. Donc, on y allait tous les deux ans. Il y avait on
maison présente dans la bande dessinée.
Oui, c'est exactement la même. Enfin, je l'ai redessinée, mais c'est celle-là. On allait voir notre famille. Ouais, tous les deux ans. Sauf qu'après, bah, une fois que tu grandis, tu parles plus avec tes parents en vacances. Donc, je pense qu'à partir de mes 20 ans, peut-être, j'y suis plus trop allée ou moins. Et là, j'y suis retournée pour la BD, mais sinon avant, bah, j'étais retournée pour faire la BD aussi. Donc, c'était il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi.
Mais tu songeais à t'y installer, en tout cas, en ce moment, non?
Là, en ce moment, ouais.
Il y a cette réflexion qui est née.
Ouais, mais comment tu sais? Je t'ai dit.
C'est un travail. Okay.
Ah, mais à qui je l'ai dit, je sais plus. Mais c'est vrai que là, j'ai rencontré une fille qui a emménagé il y a 5 ans à Lisbonne et qui est franco-portugaise. Et elle disait ah mais j'aurais dû emménager avant parce que, et en fait c'est la fille d'un monsieur que j'ai interviewé en plus.
D'accord. Bref.
Mais elle m'a dit ah j'avais trop peur en fait de en fait parce que du coup elle a fait le chemin inverse de son père au final.
Absolument ouais.
Et elle était là genre ah j'avais trop peur mais si j'avais pas eu la peur je serais venue avant. Et du coup ça m'a fait réfléchir, je me suis dit ah moi j'aimerais bien peut-être pas habiter longtemps mais j'aimerais bien essayer peut-être 6 mois déjà pour voir juste déjà pour mieux parler parce que mon portugais il est pas terrible. Mm-hmm. Donc je me dis si j'habite au moins c'est je pense que c'est bon ça va le faire. Mais ouais peut-être et en plus comme je travaille en France en vrai histoire pour les revenus ça va même si autrice de BD, c'est super précaire. Hein.
Oui, j'imagine.
Ah oui, mais du coup, je vais perdre toutes les aides. Ben, je sais pas. Ouais, c'est faut que je calcule.
Il faut en parler encore.
Oui, oui,
faut,
oui.
Faut y réfléchir.
Débrief. Ouais.
Madeleine Pereira qui est avec nous sur Radio Alpha pour nous parler de sa première bande dessinée, son dernier travail, Bourboulette, c'est aux éditions Sarbacane. Nous allons pour le moment marquer une courte pause. Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis toujours en compagnie de Madeleine Pereira. Tout va bien, Madeleine ?
Tout va bien, merci.
Tu viens nous parler aujourd'hui de ta première bande dessinée. Elle s'appelle Bourboulette, Borboleta. C'est aux éditions Sarbacane. Une bande dessinée de plus de 160 planches, si je ne m'abuse, qui est assez conséquent. Comment se lance-t-on dans un tel projet ?
Bah, là, j'ai eu de la chance, on va dire, et j'ai saisi les occasions parce que, au tout début, donc, j'avais le projet de bande dessinée, j'avais fait les interviews de mon côté. Et après, le problème, c'est que comme c'est un métier qui est quand même super précaire, il faut de l'argent pour vivre et pour pouvoir faire le projet. Et du coup, j'ai réussi à avoir une résidence d'artiste à Épinal, donc c'est dans les Vosges, mm-hmm. qui a duré 2 mois. Et du coup, là, j'étais rémunérée. Après, je faisais à côté des ateliers avec les enfants et aussi dans des écoles d'art et tout machin. Et donc, ça a commencé... En fait, ça a lancé le projet où du coup, j'ai pu avoir du temps et de l'argent pour pouvoir démarrer la BD. Et ensuite, bon, après, j'ai fait un service civique dans le Sud. Et ensuite, j'ai eu une autre résidence à Angoulême, mmh. qui s'appelle la Maison des Auteurs. Et pareil, j'ai réussi à avoir la bourse Ezy Magelis, donc c'était le pôle image d'Angoulême, l'ancienne école d'art où j'ai fait 1 an, et la Maison des Auteurs, donc la résidence. Et là, j'étais rémunérée, en fait, tous les mois, j'avais de l'argent et une place d'atelier partagée. J'avais le meilleur atelier de toute la résidence.
La chance.
Parce qu'en fait, c'est genre un gros bâtiment avec, on va dire, 3 étages, et il y a peut-être 5 ateliers par étage, et c'est des ateliers partagés. Donc nous, on était 4 dans l'un. Enfin, entre 3 et 4. Et voilà, et du coup, c'est comme ça que j'ai pu aussi continuer la BD. Et après, j'ai eu les sous de la maison d'édition. Une fois que mon année de bourse, en fait, s'est écoulée, là, j'ai utilisé les sous de la maison d'édition. Et c'est comme ça que j'ai pu me lancer vraiment dans le projet. Là, je parle vraiment de l'aspect technique.
L'aspect technique, oui, financier presque.
Parce qu'il faut payer le loyer.
Bien sûr.
Donc, ouais, et après...
Et comment l'idée a surgi de traiter ce sujet-là ?
Mais en fait, je sais pas, parce que il y a très longtemps, j'avais envoyé un message à mon père pour qu'il me raconte un peu sa vie en disant que j'allais faire un projet, mais c'était pas vrai. Mais je pense que du coup, l'idée, en fait, elle est restée coincée dans ma tête. Et après, elle a mûri. Et aussi, je pense que pendant ma première résidence à Épinal, en fait, comme c'est des résidences où on est sélectionné sur dossier, il faut créer un dossier. Et du coup, il fallait parler d'un projet. Et j'avais, je crois, donné peut-être 2 idées de projet. Je pense que l'autre, c'était une fiction, mais franchement, je m'en rappelle pas. Et après, j'avais proposé ce projet-là sur le Portugal, et du coup, sur la mémoire, en fait. Et eux, ils m'avaient dit, ah ben, on va te prendre dans cette résidence, mais par contre, on préfère ce projet-là. Et du coup, je pense que ça a aussi axé mon désir de faire cette BD. Et après, bon, je me suis lancé.
Puis, il y a eu un heureux hasard au niveau du calendrier, parce que c'est les 50 ans de la Révolution
des
œillets.
C'est bizarre, hein. Ouais.
Et donc, ça marchait plutôt bien. Il y avait un bon prétexte pour lancer cette BD aussi.
Oui, en plus. Mais du coup, ça fait un peu, j'ai voulu faire une BD pour les 50 ans de la Révolution des œillets, alors que pas du tout. C'est vraiment le hasard total que ça tombe là. Parce qu'en plus, moi, je voulais que ça sorte plus tôt. Parce qu'en vrai, j'ai fini mes planches donc la planche, c'est une page, quoi. Mm-hmm. J'ai fini en juillet, je crois. Après, j'ai fait la couverture en octobre. Dernier, hein, donc 2023. Du coup, je me suis dit, ah, j'espère que ça va sortir en janvier pour le festival de la BD à Angoulême. Mais Sarbacane, ils m'ont dit, non, ça va sortir début avril. Et du coup, j'étais là, genre, ah, bon, bah, quelque part, tant mieux, parce que c'est les 50 ans de la Révolution. Donc, ouais, c'est bien tombé.
Oui, puisqu'effectivement, cette bande dessinée était disponible depuis très longtemps. Je me rappelle qu'en janvier, je l'avais déjà entre les mains, enfin, les planches, en tout cas, je l'avais déjà découverte il y a des mois, et j'étais un peu étonné, effectivement, d'attendre tout ce temps avant de recevoir l'exemplaire physique. Et après, j'ai vite compris qu'effectivement, il y avait les 50 ans de la Révolution. À quel moment tu es devenue curieuse de ton père?
Bah ça c'était quand j'avais parce que là j'ai 27 ans donc j'avais 20 22 un truc comme ça je sais pas mais après moi je suis partie de la famille enfin je veux dire tout le monde est resté à Paris moi comme je suis allée faire mes études ailleurs mm-hmm. je suis partie de la maison j'avais 17 et du coup et même parce que lui nous parle en portugais depuis qu'on est petite parce que en vrai j'ai 2 sœurs hein. Dans la BD j'en ai enlevé une
oui dans la BD il n'y en a qu'une contente, Louise
ouais bah en fait
qui est prof dans la vraie vie
En fait, c'est Alice qui est prof dans la vraie vie, mais d'accord. Comme j'ai enlevé Louise dans la dans en réalité, hein, comme j'ai enlevé Louise, j'ai donné le nom de Louise à Alice pour
très voilà, bien.
Pour pas qu'il y ait de jalousie.
Mais donc dans la bande dessinée, ta sœur s'appelle Louise.
Ouais, c'est ça. Mais en vrai, j'en ai une qui s'appelle Louise, mais c'est pas elle. Enfin, c'est
oui,
l'autre.
Oui, oui. Là, ouais. C'est Alice.
Ouais, c'est
mais
ça.
Elle s'appelle Louise.
Ouais,
mais
ça,
il existe une Louise.
Oui, c'est ça.
C'est très clair.
Mais du coup, je sais pas. Je me dis comme je suis partie de la maison tôt, j'avais moins de liens. Enfin, après, je rentrais pas trop à Paris parce que bon, je me dis tu fais ta vie autre part aussi, voilà. Et du coup, et lui nous parle portugais depuis qu'on est petite. Et là, j'avais perdu le portugais. Après, je parlais avec plus personne. Donc, je sentais, je sais pas. Je me dis, c'est, je sais pas. Franchement, je sais pas.
Comment as-tu travaillé le dessin de cette bande dessinée? Parce qu'à titre personnel, je le trouve super. J'étais très sensible aux couleurs, au ton. Il dénote même une grande sensibilité, je trouve.
Ouais, ben c'est gentil. En fait, moi, je fais beaucoup de dessins d'observation à côté, où j'ai toujours mon carnet sur moi avec des stylos. Ça fait vraiment cliché, hein, mais c'est vrai. Et là, la BD, je l'ai travaillée. Donc, j'ai fait d'abord le storyboard. Donc, c'est la BD au brouillon. Donc, c'était sur des feuilles A4 que je pliais en deux. Et ça faisait des mini-pages, en fait. Un A5, ça faisait une page de BD. Et après, je faisais mon crayonné. Donc, c'est-à-dire que je prenais ma vraie page. Bon, donc, le papier, je l'ai testé. J'ai essayé plusieurs papiers, plusieurs techniques aussi. Parce que, en fait, au début, je voulais pas faire de crayon de couleur. Là, toute la BD, le crayon de couleur. Et au début, je m'étais dit, bah, pour économiser du temps et de l'argent, je vais faire plutôt à l'aquarelle. Sauf qu'en fait, j'ai fait des tests, c'était horrible. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais, parce que l'aquarelle, ça va quand même plus vite, je trouve. En tout cas, quand, comme moi, je la pratique. Et du coup, après, je suis revenue au crayon de couleur et je me suis dit, bah, ça va être plus long, mais en même temps, je suis plus à l'aise et ça va être plus beau, je pense, parce que j'arrive mieux à maîtriser. Et du coup, donc, j'avais ma feuille blanche. Après, je faisais le gaufrier, donc ça veut dire toutes les cases au stylo. Après, je faisais le crayonné à l'intérieur, donc, le brouillon. Après, je faisais l'ancrage, donc, avec mon stylo. J'attendais que ça sèche, on va dire 20 minutes, quoi. Sauf quand il faisait super chaud, c'était horrible. Il y a le papier gondolé, enfin, bref. Et après, je faisais la couleur directe. Et du coup, j'essayais de faire une planche par jour. Donc, ça me prenait entre 5 et 9 heures, on va dire. Mais c'est plutôt dans, ça prenait plus 7 heures que 5 heures, hein. Et en fait, j'essayais aussi de faire le crayonné de la planche d'après, le jour même, pour pas que j'arrive à mon bureau et que je doive réfléchir, parce que dès que je faisais un crayonné, en fait, je me dis s'il y avait des, par exemple, si c'était un intérieur d'appartement, il fallait vraiment que j'ai des références à côté pour pas dessiner n'importe quoi. Du coup, ouais, et en fait, sur mon ordi, j'avais, je sais pas combien de dossiers avec, du coup, les bateaux, en 1960, 1970, les maisons, enfin, bref, genre, tout était répertorié pour pas que je dessine n'importe quoi, parce que c'était vraiment ma hantise. Comme j'ai pas vécu à cette époque-là, j'avais trop peur de dessiner, de la merde.
Il y a une certaine autodérision dans tes dessins. Ouais, notamment quand tu te dessines toi-même.
Oui, mais après, d'un côté, tout le monde me dit « Ah, oh, tu te dessines moins belle ou je sais pas trop quoi. » Mais d'un côté, on me reconnaît. Du coup, je me dis que ça va. Et il y a une page aussi où, je sais pas si tu te rappelles, on voit à travers une vitre les montagnes parce que je suis dans un avion. Et la page, j'avais tellement galéré à la dessiner. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas. Et la page d'après, il y avait encore cette vue-là. Et je me suis dit, non, il faut que je trouve un système. Du coup, j'ai dessiné ma grosse tête comme ça, avec l'énorme nez devant la fenêtre pour
absolument,
cacher.
Absolument, ouais, ouais.
Et après, je me suis dit, mais non, mais en fait, il suffisait juste que je mette des nuages. Du coup, après, il y a des nuages. Donc, ça a vraiment aucun sens, mais c'était juste.
Le dessin évoluait pendant que tu le faisais.
Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en vrai, il y a le storyboard qui est à côté que je regarde. Mais j'ai quand même la liberté de changer des points de vue ou même carrément une page, hein.
C'était l'occasion de dessiner Lisbonne aussi, cette bande dessinée.
Ah ouais, c'est trop agréable. Ouais.
Comment ça s'est passé?
Bah du coup, quand je suis allée voir mon père un moment, j'ai pas mal dessiné sur place, donc dans mes carnets de croquis, je prenais des photos. Et après, la plupart du temps, et après, donc comme j'étais rentrée en France, quoi, je traînais sur Google Maps. Et en fait, maintenant, il y a un nouvel outil où tu peux retourner dans le passé. Donc je pense que le plus vieux que j'avais, c'était genre 2009. Mais c'est marrant, tu vois les voitures qui évoluent. Et du coup, j'étais sur Google Maps, comme ça, Google Street View. Et aussi, tu peux mettre les immeubles en 3D un peu. Donc, parfois, il y a des vues où j'essayais de capter des trucs. Ouais, et j'ai fait plein de captures d'écran. Ah, c'est trop bien. Toutes mes techniques, elles ont évolué au fur et à mesure. Et je pense que ça se voit dans les dessins aussi. Au début, c'est moins à l'aise. Enfin, même si les pages du début, je les ai retravaillées. Mais le premier témoignage, par exemple, c'est le premier que j'ai fait, je pense, en dessin. Et je trouve, il est moins bien que les autres. Enfin, moi, je le vois que, bon.
Tu notes, toi, la différence.
Oui.
Tu fais allusion dans les remerciements à une idée de ta mère pour la couverture de l'album.
Je peux pas le dire parce qu'elle va me tuer.
Tu es obligé de nous raconter, là.
En fait, non, mais je peux pas le dire parce que vraiment, elle m'a dit, Madeleine, tu me promets que tu le diras jamais. Non, mais c'était une blague, soi-disant, qu'elle m'avait faite pour une idée de couverture. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la couverture en octobre et j'ai terminé les planches en juillet. Donc, il y a eu, août, septembre, trois mois où j'étais plus du tout dans la BD. Donc, il me demandait Sarbacane de faire une couverture. Et moi, j'étais là, genre, ah, oh, mais j'arrive pas. Donc, j'envoyais des propositions au crayon à papier. À chaque fois.
Votre père en studio.
Ah voilà, on l'entend. Hein. Il a attrapé froid dans l'avion. Enfin bref.
Et donc la couverture?
Donc j'envoyais plusieurs propositions au crayon à papier et à chaque fois Sarbacane me répondait non, non, non. Genre c'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas bien. Et du coup,
et
un
moment, pour quelle raison il se justifiait?
Oui, c'était parce que j'avais. Mais même moi, en fait, je voyais que ça marchait pas. Par exemple, il avait fait une vue dans les escaliers de mon personnage qui se retournait avec une rambarde d'escalier et un arbre au bout. Sauf qu'en fait, vu comment c'était construit, la rambarde, elle cassait le dessin. Enfin, à chaque fois, il y avait des trucs qui fonctionnaient pas. Mm-hmm. Donc en vrai, il me disait non et j'étais là, genre, bah ouais, je sais. Mais je sais pas, j'arrivais pas. Et à un moment, j'ai fait une blague où il y a Mathieu Siapin qui a sorti une BD qui s'appelle Edgar.
Edgar, on l'a reçu ici à l'occasion.
Ah ok, bon bah voilà. Et là, en fait, j'ai pris la couverture de Mathieu Siapin et j'ai fait un montage Photoshop où j'ai enlevé sa tête, j'ai mis ma tête à la place et j'ai changé son titre, j'ai mis le mien. Et je crois que c'est Dargo, je sais plus qui a édité.
Oui, c'est chez Dargo.
Ok,
oui.
Donc j'ai enlevé Dargo, j'ai mis Sarbacane et j'ai envoyé Sarbacane en disant « Qu'est-ce que vous pensez de cette couverture ?» Ça les a pas fait trop rigoler, je crois.
Bon.
Et après, ils m'ont dit ah non, on aimerait bien cette page-là de la BD en couve. Et c'était la première page du témoignage de Juan. Voilà. Et en fait, j'ai dit bon bah ok, je vois l'idée maintenant. Et donc là, je suis allée sur Google Maps encore. J'ai fait un espèce de patch de plein d'immeubles et ça a fait la couverture. Et j'ai mis mon personnage et j'ai mis ma grand-mère aussi au dos qui fume une cigarette par une fenêtre. Mm-hmm. Et en fait, mon personnage, il y a un truc aussi où il faut que la personne elle aille à droite, je crois. Pour le système de lecture, enfin le sens de lecture.
Oui, absolument, moi, il faut retourner le.
Va à gauche. Ah non, ma tête, elle va à gauche, mais voilà, et mon corps, il va à droite. Non, c'est trop bizarre.
Mais donc, à quel moment intervient ta mère dans cette idée-là?
Ah, voilà, et comme. Ah, c'est vrai, j'ai esquivé, mais ça n'a pas marché. Et comme je galérais trop, ma mère, elle m'a dit ah, tu pourrais faire ça en rigolant. Enfin, elle m'a dit après que c'était une blague, mais pour moi, c'était pas une blague. Mais l'idée, elle était vraiment terrible, donc je vais pas le dire. Parce que.
Ah, mais donc l'idée de ta mère n'est pas la couverture qu'on
non,
a sous
non,
les
non.
yeux. Voilà, j'avais cru comprendre que
pardon.
C'était.
Ah non, non, non.
Donc
pas
en
du
fait,
tout.
Elle a proposé une idée que tu n'as pas sélectionnée.
Non, que j'ai
quoi.
Pas. Ouais, ok, désolé, d'accord. J'ai parlé 5 minutes pour.
Non, mais j'ai aucun souci. On en a appris plus, du coup, sur le choix de cette couverture-là. Et le choix du titre, Burboleta. Burboleta signifie papillon en portugais. Pourquoi ce titre? J'ai remarqué qu'il y a un petit papillon au tout début de l'album, un autre.
Qui est coincé dans la trappe-mouche, là.
Dans la trappe-mouche, un autre à la fin de Nuno, au moment où ils sont en train de lécher les bouses de vache.
Mais en fait, c'est pas des bouses, mais ça, c'est vrai qu'on comprend pas.
Bah, on peut en parler.
En fait, c'est
alors.
De l'eau. Ils avaient tellement soif, et ça, c'est un monsieur qui m'a raconté ça, donc j'ai collé à ce témoignage. Mm-hmm. Ils avaient tellement soif qu'ils sont allés dans un champ où les vaches étaient passées, et en fait, comme elles ont appuyé avec leurs pattes, ça a fait des petits creux, et l'eau,
donc, il y avait de l'eau dedans,
ouais,
d'accord.
C'est ça.
D'accord.
C'est vrai qu'on dirait des bouses, mais pas du tout. Mais en fait, mais j'ai mal dessiné ce truc, et c'était aussi au début de mes dessins, donc. Mais non, effectivement.
Aucun souci. Mais en tout cas, il y a un papillon aussi à la fin de cette histoire qui passe pendant qu'ils sont en train de boire. Pourquoi donc ce titre?
Mais parce que, en fait.
Et surtout, pourquoi l'avoir gardé en portugais aussi?
Ouais. Bah alors, du coup, l'idée du titre à la base, c'est une scène que j'ai enlevée. Où c'était la finale de l'Euro 2016. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est la finale de l'Euro 2016 avec.
Le papillon de Ronaldo?
Ouais.
Ah, waouh!
En fait, c'est que du coup, nous, on était dans le stade avec mon père et mes sœurs. Et on était
le 10 juillet 2016?
Je sais plus la date, mais ça doit être ça.
La date
au
de la
stade
finale.
De France,
d'accord,
c'est
oui,
ça. Oui. Et on était dans le groupe portugais de supporters. Mm-hmm. Donc c'était vraiment tout petit, hein. Et tout le reste c'était des Français. Et en plus ils étaient assis, parce que nous on s'est pas assis de tout le match, hein. Bon bref. Et en fait à un moment, ouais, donc Cristiano Ronaldo il se blesse et on voit sur les télés là, il y a tous les papillons de nuit qui lui volent dessus. Et un monsieur qui me tape et donc tout le côté portugais était non, on va perdre, tout le monde pleurait. Et il y a un monsieur qui me tape l'épaule et qui me dit non, mais les papillons ça porte bonheur. Et après, le Portugal a gagné. Et du coup, moi, j'avais dessiné cette scène à la base pour la mettre dans la BD. Mmh. Sauf que je l'ai enlevée parce que dessiner les stades de foot et tous les supporters, en fait, je me suis dit, ah, ça va être trop long.
Beaucoup de boulot.
Ouais. Du coup, j'ai viré la scène, mais j'ai gardé le titre. Et après, c'est ce que je disais à quelqu'un d'autre, c'est que il y a plein de mots en portugais que j'aime trop. Et Bouboulette, ça en fait partie. Même j'avais recueilli un chat, je l'avais appelé comme ça. Mais il y a Piloulite. Mais après, c'est des trucs du Brésil, je crois. Parce que Bizig aussi. Bizig. Et voilà. Et en plus, le pire, c'est que nous, quand on était petites, il y avait des mots qu'on nous disait en portugais et on pensait que c'était du français. Donc une fois, je me rappelle très bien, j'étais au collège dans la queue pour aller à la cantine et il y avait de la mélancie, il y avait de la pastèque. Et moi, je disais ah trop bien, il y a de la mélancie. Et les gens, ils me regardent, ils me disent Madeleine, ça s'appelle pas comme ça, ça s'appelle une pastèque. Hein. Je savais pas. Et les chinelles, c'est pareil. Et il y a un autre truc. Là, c'était la honte. C'était il y a un an. J'ai eu un dégât des eaux chez moi et donc j'avais l'assurance au téléphone. Et je leur dis, ça ping chez la voisine. Et la dame, elle me dit, ça ping? Je fais, oui, ça ping chez la voisine. Elle me dit, mais je sais pas de quoi vous parlez, madame.
Et donc, en tout cas, c'est le mot burbulete que vous avez choisi. Pas ping.
Non, pas ping. Oui, c'est ça. Parce que c'est des mots, je sais pas, je les trouve beaux.
Donc Bourblet est donc le titre de cette bande dessinée aux éditions Sarbacane. Vous avez eu l'occasion, on le disait, de pouvoir dessiner Lisbonne. Et d'ailleurs, sur les conseils de Guida, tu es allé au musée du Aljoub. C'était une expérience plutôt...
assez dure, hein.
Assez dure, oui.
Oui, parce que le musée, il est en 3 étages. Et moi, quand j'y suis allée, il y avait une exposition qui était trop bien sur les femmes. Donc, il y avait une exposition temporaire sur les femmes pendant la résistance. Enfin, des femmes de la résistance et les expositions permanentes. Donc avec premier, deuxième, troisième. Et le troisième, c'est sur les colonies, me semble. Le deuxième, c'est les prisons et les tortures. Et le premier, c'est tout la chronologie de la dictature. Mmh. Et il y avait tellement... Mais en fait, il est super bien fait, je trouve, parce qu'il est très oppressant. Et du coup, je me dis, ça te met aussi, en tant que visiteur, dans une position... t'es pas bien. Et il y a plein d'informations super intéressantes. Ils expliquent... Enfin, en vrai, je trouve qu'il est vraiment très bien fait.
Et l'histoire et un musée plutôt méconnu, malheureusement, de la plupart des gens.
Ouais, même ma tante, elle m'a dit, ah, je savais pas qu'il y avait ça à Lisbonne et tout. Enfin, il y a plein de gens, en fait, qui connaissent. Mais même moi, je connaissais pas. Hein.
Oui, mais plein de gens, en fait, aussi, quand on va à Lisbonne, on pense pas tout de suite au musée, on pense aux belles rues, aux photos, aux pasternates et à la bouffe pas chère. Ouais. Mais il y a aussi des super musées.
Il y a un musée qui est pas cher, en plus, aussi.
Voilà.
Et il est vraiment bien fait. Et il y a un moment, et je le mets dans la BD, il y a l'histoire du téléphone, où ils disent que les prisonniers, en fait, donc il y a un téléphone qui sonnait, et c'est le mec de la PIT qui répondait. Et en fait, il y a un des prisonniers qui allait se faire torturer, je crois. Enfin, qui allait se faire interroger, donc forcément, enfin, sûrement torturer. Et en fait, personne ne savait qui allait être choisi. Et du coup, et en fait, dans le musée, il y a un capteur de mouvement. Et quand tu passes près du téléphone, il se met à sonner, mais super fort. Et du coup, forcément, tu sursautes. Et du coup, ils disent que ça te met. Enfin, ouais, ils ont fait un travail de scénographie qui est assez poussé. Et du coup, ils disent que ça te met dans une position comme les prisonniers, même si c'est pas pareil. Mais je veux dire, t'as un semblant de sensation, quoi, où t'as trop peur d'un coup.
Tu as 27 ans ?
Ouais.
Que représente le 25 avril à tes yeux ?
Bah, du coup, c'était... Bah, voilà. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que au début, moi, je me suis dit, bah, les révolutions pour la liberté, je comprends pas trop, parce qu'en France, c'est quoi ? C'est le 14 juillet ? Ouais.
Ici, c'est le 14 juillet.
Oui, voilà. Et du coup, bon, il y a les feux d'artifice, mais ça évoque rien, en fait, pour moi. Et là, en faisant cette BD, je me suis dit, mais attends, c'est ouf, parce qu'en fait, la dictature, c'était il y a vraiment pas longtemps. Et du coup, fêter la fin de la dictature, je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Enfin, en tout cas, ça m'a évoqué un truc de, ah, il faut le faire. Enfin, il faut descendre dans la rue, il faut manifester. Parce que c'est super important. Et parce que, il y a des générations qui l'ont vécu, qui sont encore là. Et du coup, ouais, ça m'a évoqué beaucoup plus de choses que en France. Mais je l'ai jamais fait, par contre.
Tu veux dire que tu n'as jamais été à Lisbonne pour célébrer le 25 avril ?
J'aimerais bien, un jour, ouais.
Je comprends, moi non plus, j'y suis jamais allé, mais effectivement, les images d'hier, en tout cas, étaient impressionnantes. Il y avait vraiment des milliers de gens dans la rue pour célébrer les 50 ans. Ça avait l'air d'être un super moment. Est-ce que le meilleur moyen de communiquer avec ton père, finalement, c'est de ne pas parler, un peu à l'image de la fin de cette bande dessinée ?
Oui, mais après, moi, j'ai fait la BD aussi dans l'idée que déjà, il se parle avec ma tante. Et que mon père, il me parle un peu, mais en fait, ça n'a pas marché. Enfin, parce qu'il n'a pas plus parlé. Mais au moins, je me dis, bah, moi, ça m'a donné l'occasion de dire ce que j'avais à dire et d'essayer de créer un lien. Enfin, je sais pas, de montrer de l'intérêt, quoi.
Et alors, avec la tante, dans la vraie vie ?
Non, je crois qu'il ne se parle pas plus. Hein. Non.
La tante a reçu la BD ?
Oui.
Et qu'en a-t-elle pensé ?
Elle m'a dit que c'était trop bien. Enfin, c'était super touchant, son message, parce qu'elle m'a envoyé un message. Puis après, on s'est appelé. Mais elle m'a dit que ce qui était bien, c'était aussi que... Parce qu'elle, elle raconte beaucoup son histoire, elle n'a pas trop de tabou par rapport à ça, à ses enfants, qui ont maintenant, eux aussi, des enfants. Et elle dit ce qui est bien, c'est que, du coup, ça va faire un travail de mémoire. La BD, elle fait quand même un travail de mémoire.
Bien sûr.
Pour passer à des générations d'après. Et du coup, ouais. Et puis elle disait que ça l'avait touchée, enfin, qu'elle se reconnaissait dans l'histoire. Bon, après, pour le coup, le témoignage de ma tante, je pense que c'est un que j'ai le moins touché, quoi. Enfin...
C'est celui qui est le plus proche de la réalité.
Ouais, je pense, parce que je crois pas que j'ai le plus... Oui, après il y a des trucs que j'ai rajoutés forcément, mais j'ai pas rajouté de prisme politique ou historique comme dans les autres où il y a des gens qui interviennent. Là, c'est plus... Ouais.
À la fin de l'album, on te sent un peu frustré dans les remerciements. Tu n'as pas remercié tout le monde puisque ton carnet était perdu lors d'un déménagement. Est-ce que tu l'as retrouvé ? Et si oui, remercie ici et maintenant tous ces gens qui étaient dedans.
Ah, mais il y a une liste énorme. Alors, en plus, elle est dans ma tête. Mais c'était horrible parce que je venais de déménager. En plus, j'ai fait mes cartons. J'ai déménagé d'Angoulême en Angoulême. Hein. Mais oui. Mais j'ai fait mes cartons. Il y avait le festival de la BD, donc j'accueillais des gens chez moi. Après, j'ai dû continuer mes cartons et je pensais que ça allait le faire. Sauf qu'en fait, il y avait plus de temps. Donc j'ai des potes qui ont dû m'aider. Donc vraiment, je faisais n'importe quoi avec les cartons. Et après, on a déménagé. Bon, bref. Ah oui, et du coup, le carnet, il était perdu. Et Sarbacane m'ont dit, ah bah, il faut que t'envoies les remerciements avant demain ou je sais pas quoi. Et j'étais genre, mais je suis dans la crotte. Et après, d'un côté, tant mieux, ça m'arrange parce que sinon, j'aurais dû faire une liste énorme. Et si j'avais oublié une personne, alors que j'aurais fait une liste énorme, ça serait pas bien passé. Du coup, là, en fait.
Oui, je me suis demandé si c'était pas une technique un peu.
Bah, je pense que j'aurais
pu le retrouver. À l'image de ton père, quoi, une esquive.
Je pense que oui, parce qu'en vrai, le carnet, j'aurais pu le retrouver. Je pense que je savais à peu près dans quel carton il était. Mais
Tu veux à peu près citer des gens maintenant?
Bah, je peux quand même dire ma sœur que j'ai, par contre, oublié de mettre dans les remerciements, et c'est un peu abusé parce qu'elle, elle m'a vachement aidé pour tout ce qui était contexte historique et politique parce qu'elle est prof de portugais. Donc, elle m'a filé plein de documents qui étaient super intéressants. Du coup, je peux quand même rajouter ma sœur. Et après, bah, tous mes potes et tous les gens qui ont relu, et enfin, mais je pourrais pas dire les noms. Il y a la famille Flusin chez qui je dormais, par exemple, à Épinal. Il y a mes copains d'atelier, il y a Julia, Dimitri, il y a Clara, il y a Anis, il y a Silky. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Il y a Florence aussi.
Chers auditeurs et chères auditrices, courez dans toutes les bonnes librairies pour acheter cette superbe bande dessinée. Vraiment, je le dis, je reçois beaucoup d'artistes et d'auteurs ici avec leurs travaux. Celle-là m'a particulièrement touché. J'ai vraiment particulièrement aimé Bourboulette. J'en ai beaucoup parlé autour de moi dans les jours qui ont suivi, à mes parents, à mes amis. J'ai vraiment dit à tout le monde, c'est une super bande dessinée. Allez l'acheter, Bourboulette de Madeleine Pereira. C'est aux éditions Sarbacane. Vous pouvez la trouver dans toutes les bonnes librairies. Et puis si vous n'aimez pas aller dans les librairies, vous avez toujours Internet.
Et la FNAC.
Et la FNAC. C'est une
librairie quelque part.
Librairie mainstream, disons. Merci beaucoup, Madeleine.
Merci beaucoup.
D'être venue passer presque une heure en notre compagnie ici dans l'Alpha 10-13 de Radio Alpha.
Merci.